Eh bien, bonjour. Je m'appelle Xavier Santoni. Je suis pédopsychanalyste. J'ai suivi mon cursus psychanalytique à l'Institut français de psychanalyse appliquée d'Avignon, ville dans laquelle j'exerce ma profession. De plus, je suis également partenaire et associée de Psychanalyse Magazine. Traiter des émotions de l'enfant sur le thème de l'abandon est un thème qui, pour moi, n'est pas facile. Pas facile parce que cela éveille en moi ce que l'on appelle en psychanalyse un affect. Freud entendait par affect un état émotionnel pouvant d'ailleurs avoir des manifestations physiques ou psychiques, voire même les deux, ayant pour origine un événement ancien, vécu de façon pénible ou agréable, et ce, de façon plus ou moins consciente. Ainsi, en ce qui me concerne, le sujet de l'abandon est quelque chose qui, dirons-nous, m'affecte tout particulièrement. J'ai choisi aujourd'hui d'analyser les processus abandonniques liés à l'enfant par le biais de la psychogénéalogie, au travers de mon histoire familiale personnelle. La psychogénéalogie se veut d'essayer de comprendre un chemin de vie à la lumière de l'héritage familial inconscient transgénérationnel. Alors mon histoire est la suivante. Lorsque j'avais 5 ans et demi, alors que je grandissais dans une famille dite traditionnelle, avec mes deux parents et une sœur de 8 ans, mon aînée, mon père, qui était médecin, alors qu'il revenait d'une consultation médicale et qu'il se rendait auprès d'une de mes cousines, qui s'apprêtait à mettre au monde son premier enfant, mon père donc est décédé brutalement dans un accident de voiture. Sous prétexte que ma mère devait s'organiser pour des raisons matérielles, tandis que ma sœur se voyait confiée à notre grand-mère maternelle, j'ai été envoyée chez une tante et un oncle du côté paternel, lesquels vivaient à l'autre bout de la France, comparativement à l'endroit où nous habitions avec mes parents. Ce qui fait qu'en l'espace de quelques heures, je me suis retrouvée avec mon père mort, séparée de ma mère et séparée de ma sœur. D'une situation qui se voulait provisoire, elle est devenue définitive, puisque dans les années qui ont suivi, je n'ai revu que quelques jours par an, puis quelques jours tous les 2 ou 3 ans, ma mère et ma sœur. Pour finir par ne plus revoir du tout ma mère, puisqu'à son tour, elle est décédée prématurément. Voilà ce qui a fait de moi ce que l'on appelle un enfant abandonné et qui a fait que je me suis inscrite dans ce que l'on a coutume de qualifier d'un profil abandonnique avec toute sa kyrielle de conséquences, lesquelles m'ont d'ailleurs amenée, beaucoup plus tard, à effectuer un travail analytique. Alors, face à un destin comme celui-là, peu ordinaire, le psychogénéalogiste va tout d'abord rechercher le symptôme transgénérationnel. En psychogénéalogie, le symptôme est ce que l'on appelle un invariant, c'est-à-dire une situation négative qui va se reproduire à intervalles plus ou moins réguliers. C'est ce que l'on appelle une compulsion de répétition. Cette situation peut être une pathologie, ou bien une particularité professionnelle, ou bien encore une cause de décès. Ce qui est important, c'est que l'invariant soit remarqué des deux côtés, aussi bien du côté de la jambe maternelle que du côté de la jambe paternelle. En effet, un individu est constitué à part entière des identifications successives à ses deux parents. Donc, dans mon histoire, on va observer que le symptôme transgénérationnel est un enfant mort de sexe masculin. En effet, du côté maternel, on remarque que ma grand-mère avait perdu un enfant donc garçon, à l'âge de quelques mois. Ma mère avait eu un frère qui lui-même avait perdu un garçon à l'âge de 17 ans, de façon accidentelle. Et enfin, mes parents, avant ma naissance, avaient eu un garçon qui est décédé quelques heures après sa naissance. Du côté paternel, on observe que mon grand-père paternel avait perdu sa mère au moment de sa naissance. On observe également que la sœur de mon père n'a jamais eu d'enfant et que le frère de mon père n'a eu que des filles. Alors, l'enfant mort, aussi bien que l'enfant absent, sont à considérer comme un symptôme d'enfant abandonné. En effet, l'enfant mort est un enfant qui s'est perçu inconsciemment abandonné. Même si au conscient, les parents vont s'occuper de leur enfant du mieux qu'ils peuvent, néanmoins, pour un inconscient, pour l'inconscient d'un enfant, lorsqu'il va mourir, c'est que ses parents ont été perçus incapacitaires à le sauver, incapacitaires à empêcher qu'il ne meure. C'est donc en ce sens que l'enfant mort est à considérer comme un enfant abandonné, au même titre que les couples qui n'ont pas d'enfants. On peut considérer que cette absence est synonyme d'une notion d'enfant qui a été abandonnée. On a d'ailleurs coutume de dire quelquefois, lorsque de façon volontaire ou involontaire des couples n'ont pas d'enfants, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont renoncé donc au projet. Donc ici, on voit que la névrose familiale est une névrose d'abandon. Alors l'abandon est avant tout une séparation. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'une séparation va provoquer autant de souffrance? Il est bien évident qu'au conscient, un enfant n'est pas heureux lorsqu'il est séparé de ses parents, qu'il est triste lorsqu'il n'est pas avec eux. Mais que se passe-t-il au niveau inconscient? Pour un inconscient, toute séparation va le ramener à une angoisse que l'on appelle angoisse de dissociation. L'angoisse de dissociation est cette angoisse que tout individu va ressentir au moment de sa naissance, au moment où il va être séparé de sa mère pour la première fois. C'est le psychanalyste autrichien Otto Rank, qui fut l'un des premiers disciples de Freud, qui a largement étudié ce processus. Selon lui, la naissance est un véritable traumatisme psychique dont chacun d'entre nous ne se remettra jamais. À ce propos, Otto Rank a publié en 1924 un ouvrage traitant de ce traumatisme, le traumatisme de la naissance. Donc, si l'on en revient à mon histoire, afin de mieux comprendre ce qu'il s'est produit lors du décès de mon père, il est important de se rappeler deux éléments, l'un situé en amont, l'autre en aval. Le premier nous ramène donc au décès de ce frère que j'ai eu, donc le fils de mes parents, mort quelques heures après sa naissance. On peut dire que cet enfant n'a pas survécu à l'angoisse de dissociation, qu'il n'a pas réussi à surmonter l'angoisse. Par ailleurs, autre élément à retenir, c'est cet enfant qui allait naître et pour lequel mon père était en train de se déplacer. Alors en ce qui concerne donc cet enfant mort, mon père inconsciemment avait inévitablement culpabilisé. Culpabilisé ne serait-ce que par le fait qu'en tant que médecin, il se vivait impuissant face au fait qu'il n'avait pas été capable de sauver son fils, mais également au titre d'une rivalité oedipienne. Ce fils qui allait venir était son rival et il ne pouvait que culpabiliser d'avoir en quelque sorte éliminé le rival. Jusque-là, il avait pu gérer sa culpabilité et on va dire continuer à vivre au conscient à peu près normalement. Mais en fait, c'est donc le fait de se rendre donc auprès de sa nièce pour l'aider à mettre au monde cet enfant qui aura été l'élément déclencheur de son décès. En effet, il s'est mis en place pour lui inconsciemment une angoisse compte tenu de l'histoire qu'il avait vécue, c'est-à-dire une angoisse de mort quant à l'enfant à venir, à nouveau dans la crainte qu'il ne se reproduise le même schéma. Donc il a cherché à éviter, il a mis en place un évitement dans une situation de déplacement puisqu'il se trouvait dans une voiture, ce qui peut être tout à fait assimilé à un contenant contenu tel que l'enfant peut se situer lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Et à ce moment-là, l'inconscient a mis en place une très forte régression, c'est-à-dire que l'inconscient de mon père s'est retrouvé donc en amont de l'angoisse de dissociation dans cette situation intra-utérine. Mais comme cela est impossible, la régression est allée beaucoup plus loin, c'est-à-dire encore avant l'état intra-utérin, ce qui mène à un état anorganique et ce qui explique donc le fait que mon père soit mort dans cet accident. Voilà, il est à signaler également que l'enfant qui est donc né par la suite est décédé à l'âge de 5 ans et demi de maladie. Alors on voit que inconsciemment, lui aussi a culpabilisé en fait du décès de son oncle. C'est comme si pour son inconscient, il avait été responsable de la mort de son oncle, compte tenu que celui-ci était dans une voiture pour venir effectivement lui permettre de naître. Par ailleurs, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, on constate également que cet enfant est mort à l'âge où moi j'ai perdu mon père. Ce qui nous signale le fait qu'entre mon père et sa nièce s'était établi un lien oedipien très fort et qu'en fait cet enfant était un enfant issu fantasmatiquement d'une relation incestueuse et qu'il était devenu le fils de mon père. Et qu'en fait, par crainte, par identification de perdre à son tour son père, comme moi j'avais pu le faire, il a préféré faire l'oblation de son moi avant même que son père risque de mourir. Voilà, de cette manière, on constate combien les inconscients culpabilisent. Alors, lorsqu'un inconscient est culpabilisé, il ne va pas être bien et il va vouloir, d'une manière ou d'une autre, se déculpabiliser.